Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se dispute avec moi pendant une heure pour débattre de l'actualité. Judith Vintraume, bonsoir.
Bonsoir Elodie.
Grand reporter au Figaro Magazine et Nathan Devers, bonsoir.
Bonsoir Elodie.
Écrivain, on va commencer par ouvrir une grande page internationale avec cette actualité aujourd'hui. Le sommet pour la paix qui se tient en Égypte. Les dirigeants ont réclamé aujourd'hui un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ils plaident aussi pour une aide massive à Gaza et une solution définitive à ces 75 ans de conflit israélo-palestinien. On va d'abord, pour commencer, écouter le président égyptien qui parle notamment de l'exode des Palestiniens en Égypte. Écoutez.
L'Égypte affirme et réitère son refus catégorique du déplacement forcé des Palestiniens et de leur exode vers le territoire égyptien du Sinaï. Car cela ne représente rien de plus qu'une liquidation définitive de la question palestinienne. La fin du rêve d'un État palestinien indépendant et l'anéantissement de la lutte du peuple palestinien ainsi que du peuple arabe et islamique.
Nathan Devers, sur ce sommet qui s'est tenu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est qu'il me semble salutaire de réfléchir à la question de la paix. Évidemment que cette question, pour l'instant, elle ne se pose pas. Il suffit de voir l'actualité. Mmh. On est à des années-lumière de cela. Et évidemment qu'une guerre, aussi tragique soit-elle, comme l'est toujours la guerre, elle n'a de sens que si on a une certaine vision de la paix. Et je ne suis pas sûr que cette vision soit posée, notamment du point de vue de la riposte israélienne, qui est une vraie réflexion à supposer qu'il y ait une entrée dans Gaza, sur ce qui se passerait après, et sur ce qui changerait dans la région, du point de vue d'une pacification comme objectif visé. Mais il y a deux problèmes, me semble-t-il, dans ce colloque, dans ce sommet pour la paix. Le premier, c'est si on regarde les participants. Il y avait des pays arabes, il y avait des pays européens, il y avait la ministre des Affaires étrangères française, notamment. Donc ça, c'est très bien. Mais il n'y avait pas Israël. Donc c'est tout à fait spécial d'envisager une paix sans une des parties prenantes du conflit. Et deuxièmement, c'est, je trouve, l'atmosphère un peu de relativisme qu'il peut y avoir. Prenez le sujet que vous avez mis, ce discours sur l'exode des Palestiniens qui signifierait la liquidation de la cause palestinienne. De facto, je ne peux pas lui donner tort, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je ne suis pas nécessairement pour les modalités, enfin il faudrait rentrer dans le détail, mais de cette riposte, je peux avoir des réticences. Mais parler de ça en donnant l'impression que la seule responsabilité de la liquidation ou du recul de la cause palestinienne revient au gouvernement et à l'armée israélienne, comme si le Hamas n'existait pas, comme si ce n'était pas une organisation terroriste qui avait décidé comme ça pendant des mois d'organiser une attaque monstrueuse qui évidemment provoquerait, et ils le savaient très bien, et c'était évidemment leur but, qui provoquerait un pluie de bombes sur leurs propres civils. Et comme si donc, si vous voulez, c'était pas le Hamas qui avait décidé de suicider la cause palestinienne, alors qu'en effet, là où elle est en danger, c'est en Cisjordanie, c'est pas à Gaza, où il y a une unité territoriale depuis 2005. Ça, si vous voulez, c'est un élément de relativisme. Et ne pas, si vous voulez, aussi remettre les choses dans leur perspective. Qu'on réfléchisse, je n'aime pas l'expression de victime collatérale, qu'on réfléchisse sur le fait que chaque civil qui meurt, chaque bébé qui meurt, c'est une tragédie et ça doit être évité au maximum, c'est une évidence. Mais qu'on oublie aussi, si vous voulez, tous les autres expériences qu'il y a pu avoir qui sont analogues. Je ne sais pas, la prise de Mossoul par les Peshmerga, par les forces irakiennes, par la coalition internationale. Combien de victimes civiles a-t-elle faite? Et c'est évidemment tragique. Combien d'enfants sont morts? La ville a été rasée notamment par les bombes, et les bombes en partie occidentales. Si vous voulez donner l'impression que ce qui se passe aujourd'hui est un événement qui est sans commune mesure depuis le XXIe siècle, c'est absolument faux. Et ce que je dis, ce n'est pas absolument pas pour relativiser. Mais si vous voulez qu'au contraire, dans cette forme à la fois d'exceptionnalisme sur l'événement et de relativisme sur les parties prenantes, ce sont les deux choses qui me dérangeaient dans l'état d'esprit de ce sommet de la paix.
Judith, sur ce que vous avez entendu de la part de Nathan, est-ce qu'on peut attendre ou pas du coup de ce sommet pour la paix?
Moi, je crois que, enfin, je suis d'accord avec tous les mots prononcés par Nathan. J'en rajouterais, je crois qu'en fait, c'est un faux semblant. La vraie raison de ce sommet pour la paix de ici, c'est que l'Égypte ne veut en aucun cas en aucun cas accueillir des Palestiniens. Elle a une peur bleue de voir arriver non seulement des terroristes du Hamas, mais même les Palestiniens dans leur ensemble. Elle se rappelle très bien l'Égypte, et la plupart des pays arabes d'ailleurs ont ce souvenir très ancré dans la mémoire, ce qui s'est passé en Jordanie dans les années 70. Alors je le rappelle rapidement, la Jordanie s'est retrouvée avec plus de la moitié de sa population constituée de Palestiniens réfugiés qui, en 1971, ont même assassiné le Premier ministre jordanien parce qu'il voulait prendre le pouvoir. S'en est suivi une riposte de l'armée jordanienne qu'on a appelée Septembre Noir, qui a donné son nom au fameux groupe terroriste qui a assassiné les athlètes israéliens à Munich. Donc ça, si vous voulez, c'est dans la tête de tous les dirigeants arabes qui ne veulent pas de Palestiniens chez eux parce qu'ils savent à quoi ça mène. Donc essayer de chercher la paix sur un fondement qui n'est pas la vérité, déjà, c'est mal parti. Moi, je préférerais que, dans la mesure du possible, l'Égypte essaye d'œuvrer, s'il veut vraiment essayer d'apaiser les choses, pour la restitution des otages, par exemple.
Justement, à propos des otages, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est confié à certains de nos confrères hier. Il dit plusieurs choses. Le chef de l'État, il se dit confiant, notamment sur les canaux utilisés par la France pour faire libérer les otages. Il salue aussi le rôle du Qatar. Nathan Devers, sur ces déclarations du chef de l'État hier, on le sent plutôt confiant. Il y a l'impression que la France suit la bonne voie. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
Cette question-là, évidemment, qu'il y a des négociations dont on n'a pas tous les éléments. Donc ce serait, je n'ai absolument pas ni les informations ni les compétences pour vous dire si la confiance d'Emmanuel Macron me semble légitime ou non. Mais il me semble en tout cas que c'est tout le paradoxe aussi de la situation. C'est que dans l'horreur du point de vue de la population civile israélienne, il y a deux types d'horreur. Il y a l'horreur de ce qui a été vécu, ces images de pogroms qu'on a tous vu ou pas voulu voir. Et puis il y a la deuxième horreur de savoir qu'il y a ces otages qui sont retenus à Gaza dans des conditions dont on préfère même pas les imaginer. Et en effet, un certain nombre d'officiels israéliens, il y a eu grand débat, hein, parce que la position historique d'Israël face aux otages, c'est de dire tous les moyens sont bons. Hein, c'était Gilad Shalit, 1000 prisonniers libérés de mémoire contre Gilad Shalit, dont certains qui ont participé au massacre du 7 octobre. Hein, cette position historique, mais là, elle était difficilement tenable au vu de l'immensité, de l'ampleur, de la monstruosité qui avait été commise. Donc on a entendu certains officiels israéliens nous dire que la priorité d'être, je cite dans le texte, cruel vis-à-vis de Gaza et que les otages, ça passait après. Un autre officiel qui a dit récemment que les otages, s'ils étaient libérés dans un an parce que l'attaque terrestre prolongeait leur libération et les négociations, c'était pas grave, c'était grave, mais qu'il fallait en tout cas accepter cela. Donc, si vous voulez, il me semble important que des dirigeants occidentaux, comme Joe Biden, comme Emmanuel Macron, fassent ici pression sur toutes les parties prenantes pour dire que la priorité absolue, c'est de récupérer les otages en question.
Effectivement, Julie Zintrobe, il est temps de faire pression et peut-être de s'imposer un peu plus pour le chef de l'État, selon vous ?
Ce qui est très curieux et très dérangeant, en tout cas, c'est ce qui, moi, me dérange, c'est que Emmanuel Macron soit maintenant un des rares chefs d'État qui compte, ou de pays qui comptent ou qui ont compté dans la région, à ne pas s'être rendu sur place. L'Allemagne, la Grande-Bretagne,
la liste est longue maintenant.
L'Union européenne, la liste devient très très longue. Et malheureusement, alors Emmanuel Macron a fourni lui-même une explication parce que ça commençait à se voir, en disant « j'irai quand ce sera utile ». Mais malheureusement, on a surtout le sentiment qu'il ne veut pas prendre le risque de braquer encore plus les Français musulmans qui considèrent que la politique de la France est trop favorable à Israël et qu'ils redoutent de dire trop nettement ce qu'ils pensent de ce conflit. Et ça, c'est très ennuyeux. Il est en quelque sorte prisonnier de cette impossibilité de parler clair, de parler vrai à la minorité musulmane en France.
On va parler d'un autre sujet, mais toujours en Israël. On va revenir sur cette attaque qui a touché l'hôpital Ali Arab dans le centre de Gaza. C'était mardi dernier et depuis, eh bien, les autorités de chaque côté, Israël et le Hamas, se renvoient à la responsabilité. Immédiatement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'était exprimé sur les réseaux sociaux. Il avait dit ceci: rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. La France condamne l'attaque contre l'hôpital Ali Arab de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elle. Toute la lumière devra être faite. Et justement, la direction du renseignement militaire français a décidé de rendre public un certain nombre d'informations à la demande de la présidence justement de la République pour justement ce devoir de transparence. Et ils disent ceci: la nature de l'explosion et les échanges avec d'autres partenaires du renseignement me conduisent à affirmer que rien ne permet de dire qu'il s'agit d'une frappe israélienne. L'hypothèse la plus probable est une roquette palestinienne qui a explosé. Judith Vintraub, comment on peut expliquer ce devoir, ce besoin de transparence? C'est pas totalement commun.
Non, c'est même rarissime. Mais qu'est-ce qui se passe en France depuis l'attaque monstrueuse contre Israël? On a un certain nombre de médias et un certain nombre de politiques qui reprennent pour argent comptant la propagande du Hamas, qui mettent sur un même plan ce que dit Israël, État démocratique, et ce que dit le Hamas, mouvement terroriste. Et pas n'importe quel média. Je pense par exemple à la première dépêche urgente de l'agence France-Presse, l'AFP, agence qui est censée être la voix de la France, agence d'État, qui a repris tranquillement le communiqué du ministère de la Santé. Il a quand même précisé, selon le ministère de la Santé du Hamas, le 17 octobre, au moins 200 personnes tuées dans une frappe, par une frappe israélienne ayant touché l'enceinte d'un hôpital. Donc il a fallu des heures et des heures et des jours pour que l'AFP, l'agence France-Presse, qui en plus a un rayonnement à l'étranger, ça porte vraiment la voix de la France à l'étranger, consente à considérer qu'il y avait débat. Alors je pourrais parler aussi de Libération. Tout le monde maintenant connaît l'histoire de cette photo brandie par un manifestant palestinien. Photo d'un bébé. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est une photo produite, engendrée d'ailleurs par l'intelligence artificielle. La main est tout à fait bizarre. Enfin, rien ne va dans cette image. Et évidemment, c'est censé prouver la colère des Palestiniens devant le massacre des bébés qui auraient été perpétrés par Israël. Donc, en fait, c'est une photo qui avait déjà été utilisée lors du tremblement de terre en Turquie par des manifestants qui protestaient contre l'inaction du gouvernement turc à réparer les dégâts et à venir au secours des populations. Et pour toute défense, le directeur de la rédaction de Libération a dit: « Oh bah oui, effectivement, on a pris la photo d'AP, l'agence américaine, qui ne précisait pas que cette photo était produite par l'intelligence artificielle. Manque de temps, omission. C'est une erreur, c'est regrettable. Point final. » Et cette intoxication, qui est absolument monstrueuse de la part de médias, je vous passe Le Monde, les unes du Monde absolument partiales jour après jour, nécessite que l'État fasse quelque chose qui n'est absolument pas son travail, c'est-à-dire fasse la vérification de faits, du fact-checking. D'où la demande de l'Élysée au renseignement militaire de divulguer les éléments factuels dont on dispose. Mais on est vraiment dans une situation incroyable. Alors évidemment, dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a une arrière-pensée politique. C'est aussi une façon de démentir la France insoumise, qui, elle,
sans le dire, en se basant sur
qui, elle, a relayé la propagande du Hamas sans jamais dire peut-être que la question se pose ou peut-être qu'on a eu tort, et sans jamais démentir. Ou aussi Olivier Faure, qui pareil a repris la propagande du Hamas sur l'attaque israélienne contre l'hôpital de Gaza, et qui quelques heures plus tard, s'apercevant que quand même
c'était pas si clair,
s'est contenté de retirer son tweet sans commentaire.
Nathan Devers, votre interprétation justement sur ce qui s'est passé, c'est aussi, on le sait malheureusement, une guerre des images où chacun donne sa vérité quelque part.
Ah non, parce que là, vous renvoyez dos à dos, pardon, Israël et le Hamas. Je ne crois pas qu'Israël ait pris en flagrant délit de faire des photos montées.
Non. Sur l'hôpital de Gaza, où chacun s'est renvoyé justement la balle et où chacun en a fait son interprétation et s'est servi comme il l'a bien voulu, entre guillemets.
Désolé pour le titre de l'émission, hein, vraiment désolé, mais je suis d'accord avec Judith.
Mais vous avez le droit.
Ça fait un partout. Mais c'était absolument passionnant à étudier ce qui s'est passé cette soirée-là, minute par minute, heure par heure. Il se passe qu'on apprend qu'un hôpital a été visé, on comprend que c'est grave, on comprend qu'il y a des civils qui sont morts, et évidemment que c'est tragique, et je le répète. Et ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, c'est qu'un certain nombre de gens en France, et des gens très sérieux, pas des guignols, je veux dire des grands médias, des députés, des grands politiques, des gens importants, qui ont décidé que entre la parole d'officine liée au Hamas et la parole de l'État d'Israël, même si l'État d'Israël a déjà commis des mensonges, comme tous les États du monde, mais qui est une démocratie, et qui est une démocratie qui aujourd'hui, on le voit bien, depuis le 7 octobre, est dans une démarche sur ces sujets-là de transparence. Entre ces deux paroles, il y a eu un avantage préférentiel qui a été accordé à la première. Et ça, ça doit nous faire collectivement réfléchir. Et il faut voir une chose, c'est que le mal qui a été fait sur le plan du mensonge, rien ne peut être réparé. C'est-à-dire que, d'abord, on a vu que certains n'ont absolument pas retiré, n'ont pas admis qu'ils avaient diffusé des fake news.
D'ailleurs,
ont continué, n'ont pas fait de mea culpa. Mais même ceux qui ont fait un mea culpa, c'était trop tard. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des manifestations monstres dans un certain nombre de pays. Je pense en Turquie. Je pense, je ne me trompe pas, oui, c'était en Tunisie. Et la synagogue qui a été brûlée, c'était à la suite de cela. Donc il y a eu une synagogue brûlée en Tunisie. Et la situation des juifs tunisiens, qui ne sont pas très nombreux, est très catastrophique. Il y a toute une partie, tout un certain nombre de pays où le fact-checking n'a pas été divulgué. Donc, de toutes les manières, il y a un certain nombre de gens qui n'ont même pas été au courant qu'on leur avait mis un mensonge dans la tête. Et donc, à partir de là, ça a créé une division absolument énorme, et ça doit vraiment nous interroger sur les arrière-pensées que les uns et les autres peuvent avoir. J'aimerais juste dire une chose, c'est que il me semble aussi que ce qui est très grave dans ce conflit, c'est que, en fait, la vérité, on le dit, c'est un peu un cliché de dire que la vérité est victime des guerres. Mais là, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que chacun et chacune puisse avoir une tendresse affective pour un camp ou pour un autre, pour des raisons même parfois personnelles, pour des raisons linguistiques, pour des raisons familiales, etc. C'est tout à fait normal. Que cette tendresse puisse déterminer du choix de la vérité, ça me paraît beaucoup plus problématique. Et poursuivre cette guerre, notamment beaucoup sur Twitter, je trouve que c'est affligeant de voir qu'il y a deux camps comme ça qui s'opposent, deux versions du réel, comme si, par exemple, le fait de soutenir Israël n'était pas compatible avec le fait de soutenir la cause palestinienne, comme si le fait de soutenir un pays n'était pas compatible avec le fait d'avoir de la critique pour ce pays-là. Et il me semble que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut opposer les deux pays comme deux blocs. Donc ça, c'est la victoire des radicaux contre les modérés. Moi, j'avais voulu, à la règle du jeu, j'avais voulu faire un dossier qui s'appelait le conflit israélo-israélien, pour montrer qu'il y avait, ne serait-ce qu'en Israël, Israël, ça veut rien dire, c'est un pays pluriel, traversé par des divisions profondes, on l'a vu ces derniers mois, et la Palestine, c'est exactement la même chose. Et si vous voulez avoir l'impression que si on a de la tendresse pour un camp, on ne peut pas reconnaître qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu un mensonge, ça, c'est absolument dramatique sur le point de vue de la vérité et sur le point de vue de la paix à long terme.
On va parler, vous vouliez redire un mot?
Oui, enfin, la Palestine, c'est la même chose. Gaza est sous l'emprise d'un mouvement terroriste totalitaire. Il n'y a pas de presse contestataire. Les ONG qui sont à Gaza ne peuvent pas s'exprimer. Et de toute façon, en général, elles ont une sympathie, y compris pour le Hamas. Moi, j'ai en mémoire, vous suivez... comme moi aussi, les événements sur Twitter, un tweet de l'agence qui s'occupe des Palestiniens pour l'ONU. Il y a une agence dédiée, une agence humanitaire dédiée, qui avait tweeté il y a quelques jours, le Hamas nous a confisqué l'eau et le fuel qui étaient arrivés pour la population. Quelques heures plus tard, disparition du tweet. Évidemment, le Hamas n'a pas toléré qu'un mouvement... Par ailleurs, lui est lié parce qu'il y a des personnalités du Hamas qui sont influents dans cette agence, disent des choses comme ça sur la place publique.
Pour terminer sur cette partie, on va parler de la gestion aussi de Benjamin Netanyahou. Écoutez justement l'avis de Jacques Attali, il était l'invité de nos confrères d'Europe. Hein, écoutez.
Qu'il y a une colonisation insupportable de mon point de vue, moi je suis... totalement contre toute la politique de colonisation. Je pense qu'un des
là, plus... vous parlez du gouvernement Netanyahou.
Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense que personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisibles encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc j'espère qu'il va bientôt quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque le cabinet de guerre est dirigé par deux généraux tout à fait honorable, qui ne, d'après ce que je comprends, n'attache plus d'importance à son point de vue, même s'il parade encore.
Nathan Devers, je voyais acquiescer, on sent aussi une colère qui monte, et comme vous le disiez, certains qui disent le soutien à Israël ne vaut pas soutien à la politique de Benjamin Netanyahou.
Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait qu'on peut avoir une tendresse pour un pays et être extrêmement critique, voire autocritique de ce qui s'est passé dans ce pays. Et je trouve que Jacques Attali a trouvé les mots extrêmement justes de exactement tout ce qu'il fallait dire. Netanyahou a pris en otage la politique israélienne, en fait en accusant ses adversaires depuis des années d'être des faibles qui menaient au conflit, des faibles qui mettaient Israël en danger. Ça a été toute sa petite rhétorique vraiment minable, il n'y a pas d'autre mot, depuis même l'assassinat de Yitzhak Rabin, ça a été absolument de faire ça et d'accuser systématiquement ses adversaires d'être parfois même complaisants, avec des insinuations au moment de la mort de Rabin, ces manifestants qui accusaient Rabin d'être une sorte de néo-nazi, et puis Netanyahou qui ne trouvait rien à redire depuis un balcon où il faisait son discours. Toute sa carrière politique, c'est ça. Et résultat, c'est le Premier ministre qui a le plus mis en danger de toute l'histoire d'Israël. Il n'y a jamais eu une catastrophe aussi grande que depuis que ce monsieur est au pouvoir. Deuxièmement, c'est un monsieur qui a engagé en Cisjordanie une politique qui mène dans le mur, et on le voit bien sur le plan géopolitique, toute sa stratégie de penser avec Trump. Ça, c'est aussi l'échec de Jared Kushner, il faut le dire, et de Trump. Donc toute cette stratégie consistant à dire on va s'allier de manière cynique avec des pays sunnites en enterrant la cause palestinienne comme si on pouvait cacher la poussière sous le tapis, ça ne marche pas, et on le voit aussi. Et troisièmement, ce qui s'est passé ces derniers mois avec une réforme folle qui a divisé la société israélienne, qui a fait que des militaires ont dit qu'ils n'iraient plus à l'armée, etc., que les services secrets, enfin, le pays était en stand-by, ça a évidemment mis Israël dans un état de fragilité et de faiblesse. Pour toutes ces raisons, je suis d'accord avec Jacques Attali, évidemment il faudra que ça se fasse dans la justice, mais je trouve que la place de Netanyahou est en prison, je suis assez d'accord.
Judith Vintraube.
Alors, Netanyahou a dirigé des coalitions à la suite d'élections. Il ne s'est pas emparé du pouvoir. On peut le regretter, mais c'est quand même un processus démocratique. Par ailleurs, dire comme Attali que Netanyahou est plus dangereux pour son pays que les pires adversaires d'Israël, c'est tout simplement complètement imbécile. On a vu ce que c'était que les pires adversaires d'Israël. Je ne crois pas qu'on puisse mettre Netanyahou sur le même plan. Qu'il ait fait de grosses et de lourdes erreurs, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, les Israéliens, dans leur ensemble, lui en veulent énormément, et notamment ne pas avoir écouté ce que lui disait le renseignement militaire, parce que apparemment, ce qui se tramait du côté de Gaza n'avait pas échappé au renseignement, même si, évidemment, il ne connaissait pas les détails ni la gravité du massacre qui allait avoir lieu. Donc, effectivement, il y a un procès en incompétence qui n'est pas fait en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est l'Union nationale, évidemment, on comprend dans l'épreuve que traverse Israël. Quant aux accords d'Abraham, puisque c'est ce dont vous parlez en accusant les Américains et Trump, Trump n'a forcé personne. Il n'a pas mis le pistolet sur la tempe du Maroc. L'Arabie saoudite n'a pas été contrainte de venir à la table des négociations avec Israël. Ces pays, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vérité du regard que portent les pays arabes sur les Palestiniens, trouvaient leur intérêt à ces accords. Et le Maroc, notamment, a absolument besoin d'un accord avec Israël. Pour le moment, tout est suspendu, y compris avec l'Arabie saoudite. N'insultons pas l'avenir.
On va marquer une courte pause dans cette dispute et on revient pour la suite de nos débats avec Nathan Devers et Judith Vintraube. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Ça se dispute. On reprend les débats dans un instant, mais tout de suite, c'est le point sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. L'armée israélienne déterminée à venir à bout du Hamas. Dès aujourd'hui, nous allons augmenter les frappes sur Gaza. Ce sont les mots du porte-parole de Tzal. Des frappes avant une possible offensive terrestre sur le territoire palestinien contrôlé par le groupe terroristes. Dans ce contexte, Antonio Guterres réclame un cessez-le-feu. Le patron de l'ONU a participé aujourd'hui au sommet pour la paix au Caire. Plusieurs dirigeants du monde étaient également présents. Ils plaident pour une aide massive à Gaza avec au moins 100 camions par jour pour les civils palestiniens. Et puis Yael Braun-Pivet en Israël. Ce samedi soir, la présidente de l'Assemblée nationale est accompagnée du président des Républicains Éric Ciotti et du député des Français de l'étranger Meir Habib. Le but, apporter son soutien au pays actuellement en guerre contre le Hamas. La délégation prévoit de se rendre dans plusieurs kibboutz pris pour cible par les terroristes.
Judith, vous vouliez revenir notamment sur un silence, celui des Français musulmans opposés au Hamas, qu'on n'entend pas beaucoup, pas du tout.
Non, pas du tout. On se rappelle qu'en 2015, il y avait eu des manifestations, notamment à Londres, de musulmans avec le slogan « Not in my name ». Ces horreurs, ces atrocités terroristes ne doivent pas être commises en mon nom. Et là, je trouve que la voix des musulmans officiels, que ce soit le CFCM, le Conseil français du culte musulman ou la mosquée de Paris, est singulièrement timorée. Quand ils parlent d'islam, c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec les atrocités commises. Le responsable du CSM a dit oui, alors l'assassin d'Arras a crié Allahu Akbar, mais c'est une expression galvaudée dans sa bouche. Galvaudée, le mot est tellement euphémistique que vraiment ça donne à réfléchir sur les arrière-pensées. Quant à la mosquée de Paris, elle s'est ralliée à la théorie de l'islam du juste milieu. Peu après l'attaque monstrueuse contre Israël, qu'est-ce que c'est l'islam du juste milieu ? C'est la théorie diffusée par les frères musulmans. Donc on ne voit pas, on n'entend pas, sauf ce pauvre imam Chalgoumi, comme d'habitude fidèle au poste, de voix musulmane autorisée prendre la parole fortement pour condamner cet islamisme qui est, comme le disait le grand philosophe Medeb, une maladie de l'islam.
Nathan Devers, vous partagez ce point de vue sur cette parole qui manque et qui serait sans doute d'ailleurs la bienvenue?
Cette parole n'est pas très entendue en général. J'ai lu une tribune de Abdennour Bidar dans le journal Le Monde, dont je vous lis juste les premiers mots qui me semblent importants. Pas de oui mais, oui, en tant qu'intellectuel musulman, je condamne sans réserve, sans ambiguïté, sans aucune hésitation, les massacres et prises d'otages perpétrés par le Hamas, et je les dénonce comme une pure barbarie et sauvagerie absolument injustifiable, etc. On peut la lire en entier. Et il dit par la suite que cette voix-là, la sienne, il estime qu'elle n'est pas assez entendue chez ses co-religionnaires, il le dit lui-même. Moi, il me semble que le problème est plus large et que c'est un problème des gens qui soutiennent la cause palestinienne. Alors, ces gens-là, ils ont un rapport aux Palestiniens qui est assez marrant. Moi, je fais souvent le test avec eux du Darwish. Vous leur dites vous aimez Darwish, ils croient que c'est un plat. Enfin, je rigole, je parle pas de tous, je caricature un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils soutiennent la cause palestinienne, mais sans se soucier une seule seconde de la réalité, de la complexité, de ce que vit aujourd'hui, de ce que vivent les sociétés civiles palestiniennes. Et en l'occurrence, à Gaza. Je dis ça pas pour faire de l'autocitation, pas pour me jeter des fleurs, mais je crois vraiment être la seule personne en France, cet été, à avoir fait une chronique, ici même, sur le fait que cet été, il y a eu des manifestations à Gaza, à Khan Younes, dans 2-3 villes comme ça de la bande de Gaza, de la part de centaines et de milliers de Gazaouis contre le Hamas, manifestations qui ont été réprimées.
Dans le sang,
et avec des arrestations. Et je me souviens que quand j'avais fait l'article, j'avais eu le plus grand mal à trouver des informations, parce qu'il n'y avait aucun article en français, ni même en anglais. J'avais dû trouver un site en arabe d'un journaliste palestinien que j'avais traduit. Enfin, je passe les détails, mais c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas d'informations. Le fait que les gens qui se soucient de la cause palestinienne, et qui ont raison de s'en soucier, c'est très important, mais si vous voulez qu'il ne se soit pas, que là, on n'ait pas entendu des voix de soutien très fort, qu'il n'y ait pas eu des manifestations de soutien dans le monde entier, par exemple, envers les Gazaouis, comme il y a pu avoir envers les Iraniennes, ça c'est problématique. Pourquoi on soutient les Palestiniens uniquement quand ils souffrent venant d'Israël ? Pourquoi, par exemple, on ne répète pas assez que Israël s'est retiré en 2005 de la bande de Gaza ? La politique en Cisjordanie, c'est autre chose, et en effet, elle est plus que critiquable. Mais quand Israël s'est retiré en 2005, Gaza aurait pu avoir un avenir radieux. Ça aurait pu devenir Dubaï, ça aurait pu devenir Singapour. Imaginez, s'il y avait eu un avenir radieux à Gaza, bah évidemment que ça aurait porté la cause palestinienne, y compris en Cisjordanie. Évidemment que ça aurait fait avancer la cause palestinienne. Et que le Hamas, qui a pris le pouvoir après des élections, mais violemment, par les armes à Gaza, et qui depuis pratique une politique, enfin c'est même pas une politique, c'est le contraire d'une politique, mais une tyrannie absolument sauvage, le Hamas a déglingué la cause palestinienne. Que les pro-palestiniens ne disent pas ça de manière assez forte dans le débat public en France et en Occident, c'est très problématique.
On va changer de sujet et parler maintenant d'un bras de fer. D'un côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de l'autre, Karim Benzema. Tout a commencé lundi, c'était sur notre antenne. Gérald Darmanin était l'invité de Pascal Praud et écoutez ce qu'il disait.
Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, d'intégration ratée, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
Au préalable, il y avait eu ce tweet de Karim Benzema qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Depuis, Gérald Darmanin a affirmé qu'il était prêt à retirer ses propos si Karim Benzema pleurait également l'assassinat de Dominique Bernard. Et du côté de l'avocat du footballeur, on explique que ses propos révéleraient du pur électoralisme et qu'il serait dévastateur. Judith Vintraume, comment vous analysez cette séquence qui me semblait un peu surréaliste quand même?
Ben, je crois que Gérald Darmanin, et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, il l'a fait sur d'autres sujets, tout simplement dit une grosse bêtise. Que Karim Benzema affiche des sympathies avec l'islam fondamentalisme le plus ultra, c'est évident. Qu'il ait une vision complètement partiale du conflit israélo-palestinien, ça n'est plus à démontrer. Les frères musulmans, c'est une organisation clandestine. On n'a pas sa carte des frères musulmans. Quand le ministre de l'Intérieur nous dit Benzema a des liens et c'est notoire avec les frères musulmans, il dit simplement une énorme bêtise qui contribue à le décrédibiliser. Il l'avait fait, rappelez-vous, avec les Anglais, les supporters anglais, coupables des émeutes, enfin des désordres au Stade de France. Il l'avait fait justement pendant les émeutes en disant qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Matteo dans les fauteurs de troubles. Le contraire a été démontré. Il n'est jamais revenu sur ses déclarations. Il va vite, il va très vite. Alors, moi, ça m'a surprise quand même qu'il commette une maladresse type là. Donc, je me suis renseignée. Et au ministère de l'Intérieur, en fait, autour de Gérald Darmanin, la théorie, c'est que c'est le discours qu'attendent une grande partie des Français. Alors, tant pis si c'est factuellement discutable. Ça fait plaisir aux Français qui attendent un discours de fermeté. Mais quand on se trompe sur des sujets aussi graves, eh bien on dessert la cause qu'on veut défendre.
Et Nathan Devers, c'est vrai que cette justification, quand Gérald Darmanin dit « je pourrais retirer mes propos si Karim Benzema pleure aussi ce professeur de français », on se dit « quel est le rapport ? » C'est-à-dire que si finalement il se comporte bien et qu'il condamne l'attentat d'Arras, alors on retire les propos et finalement il n'appartenait pas aux frères musulmans.
Oui, c'est incroyable. En fait, c'est de l'inversion de la charge de la preuve d'abord. Si moi je veux vous accuser de quelque chose de grave, c'est à moi d'amener les preuves. C'est pas à moi de vous demander de prouver que mon accusation fausse ou possiblement fausse, en l'occurrence fausse, est fausse. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ensuite, c'est de l'incitation, si vous voulez, à l'engagement. Et là, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Judith. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est des sujets trop graves pour qu'ils puissent souffrir à peu près. Et en effet, il y a un vrai problème avec l'engagement, l'indignation à géométrie variable, et même c'est plus que ça, c'est de l'indignation borgne, qui ne voit que du côté où on en a envie de voir. En fait, c'est vraiment vivre dans un réel où ce qu'on reçoit comme information et les réactions émotionnelles à cette information reposent entièrement sur des affects projetés. Donc je vis dans un monde qui est en bulle et qui est la bulle de ma propre idéologie et de mon propre pré-réel que je projette. C'est exactement ça. Et donc en effet, dire que Karim Benzema a parfaitement raison, encore une fois, d'exprimer son émotion envers les civils de Gaza, Quoique, il faut quand même préciser, quand il dit bombardement injuste, encore une fois, le mot injuste, oui, les bombardements, on peut penser qu'ils sont injustes, mais il faut quand même rappeler qu'ils répondent à quelque chose qui est une injustice. Donc là, déjà, il y a une version du réel qui est tronquée. Et cependant, je ne le crois pas l'avoir entendu parler des victimes israéliennes. C'est quelque chose. Et en l'occurrence, sans dire une seule seconde. Et c'est pas parce que, en plus, quand on dit qu'il est frère musulman, ça a créé après qu'il y a plein de gens qui ont dit que ce qu'on visait par là, c'était qu'il était musulman, etc. Moi, je me fiche totalement que Karim Benzema soit musulman, chrétien, juif. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il s'indigne pour les victimes d'un seul camp et pas pour l'autre. Et ça, c'est un problème.
On va parler maintenant de ce qui s'est passé en Belgique et de la démission du ministre de la Justice belge, puisque vous vous en rappelez, lundi dernier, Bruxelles a été victime d'un attentat. C'est un Tunisien radicalisé qui a tiré sur deux Suédois avant d'être localisé et abattu le lendemain matin. Il avait déposé des demandes d'asile dans 4 pays européens depuis 2011. Retour d'abord sur son parcours avec Célia Barotte.
Arrivé en 2015, Abdesalem El séjourne irrégulièrement en Belgique après le rejet de sa demande d'asile en 2020. Il est aussi visé par un ordre de quitter le territoire délivré l'année suivante, ordre qui n'a jamais été exécuté. Selon des documents du Parlement belge, l'assaillant a effectué d'autres demandes d'asile dans 3 pays européens, la Norvège, la Suède et l'Italie.
Le terroriste avait demandé l'asile dans 4 différents pays européens et à chaque fois, il s'est vu débouté parce qu'il n'était pas éligible à la protection.
En 2011, Abdesalem El rejoint l'Europe à bord d'une petite embarcation jusque Lampedusa. De cette île, le Tunisien de 45 ans se rend en Suède où il est reconnu coupable de graves infractions liées aux drogues. Expulsé du pays à la fin de sa détention, il aurait été remis à la Norvège où sa première demande d'asile avait été enregistrée avant de se rendre ensuite en Italie. En 2016, selon le ministre belge de la Justice, un service de police étranger signale le profil radicalisé du terroriste de Bruxelles.
Et justement, on va écouter maintenant le ministre de la Justice qui a démissionné et qui explique pourquoi il en est venu à cette décision.
Cette nouvelle information du bureau du procureur m'a touché au cœur parce que j'ai fait mon maximum pour améliorer le département de justice. J'ai informé le Premier ministre que je donne ma démission du ministère de la Justice. Je voudrais m'excuser auprès des victimes au nom du département de justice. C'est une erreur individuelle, une grave erreur, inacceptable, avec des conséquences dramatiques.
Vu de France, Judith, ça peut presque parler invraisemblable, ce ministre qui dit « il y a eu une faute, je ne cherche pas d'excuses, je démissionne ».
C'est absolument remarquable. La faute commise n'est pas la sienne. Il est le chef de la justice, il l'assume sur lui. On n'a jamais vu ça en France. Et évidemment, pas de la part de Gérald Darmanin. Je ne suis pas en train de réclamer sa démission. Je pense qu'elle ne résoudrait rien et que Gérald Darmanin essaye sincèrement de faire ce qu'il peut. Mais quand, par exemple, il nous explique que la famille le terroriste d'Arras. N'était pas excusable parce qu'il est arrivé en France quand il n'avait pas encore 13 ans, c'est juste faux. Il suffit de regarder le CESEDA, qui régit le code d'entrée et de séjour des étrangers en France. Même quand on est arrivé en France avant l'âge de 13 ans, dans certains cas, et notamment quand vous représentez un danger ou quand vous incitez à la haine envers un groupe de personnes, ce qui était son cas puisqu'il avait été repéré pour sa radicalisation, peu importe à quel âge vous êtes arrivé, vous êtes expulsable. Donc non seulement Gérald Darmanin assume une décision qui est une mauvaise décision, mais en plus, il la justifie par des arguments fallacieux. Même François Hollande l'a dit dans l'opinion, non, c'est faux de dire qu'on ne pouvait pas expulser cet individu. Ça, c'est très dommage. Et dans un autre registre, et pareil, je pense à quelqu'un comme Manuel Valls, dont on ne peut pas mettre en doute la volonté de lutter contre l'islamisme, qu'il a payé d'ailleurs très cher dans sa carrière politique. Là, dans le numéro qui vient de sortir du Point, il revient sur la non-expulsion de la famille de l'assassin d'Arras en 2014. Et il explique qu'elle est restée grâce à la circulaire Valls, hein, puisqu'elle était résidente en France de façon régulière depuis plus de 5 ans et que les enfants étaient scolarisés. Et on lui demande, il faut peut-être changer la circulaire Valls, il faut peut-être même l'abolir. Non, pas du tout, il faut la garder, il faut peut-être un peu l'aménager, mais il faut la garder.
Sur justement cette décision, est-ce qu'elle est salutaire de se dire, comme le disait Judith à l'instant, ce n'est pas lui personnellement qui est responsable, mais il y a cette valeur d'exemple de se dire il y a eu une erreur, effectivement, elle est manifeste, et bien il prend ses responsabilités.
Je suis assez réticent. Je pense que, humainement, ce monsieur a l'air de faire preuve de qualité politique assez rare. Être capable de payer pour les autres, d'assumer une responsabilité, une forme d'humilité, et de renoncer à des ambitions personnelles sous le coup d'une émotion collective. Ça, je pense qu'on est d'accord pour le reconnaître. Ensuite, d'abord, je partage avec Judith le fait que, manifestement, une démission comme celle-ci, ça ne change rien à la situation. Et deuxièmement, plus encore, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de problématique quand, dans notre réaction à un attentat, à un drame comme ça, et évidemment qu'on est tous très émus, évidemment qu'on est horrifiés, évidemment qu'on se dit que c'est insupportable, mais quand il y a, si vous voulez, vient s'insinuer cette petite musique consistant à aller chercher qui a fait une erreur et à vouloir faire tomber des têtes, métaphoriquement, mais vouloir faire tomber comme ça des gens, sur Manuel Valls. Manuel Valls, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas politiquement, le sujet n'est pas là. Mais dire que Manuel Valls était responsable personnellement d'un dossier dont, évidemment, quand il était ministre de l'Intérieur, c'est pas lui qui s'en est occupé personnellement dans son bureau pendant 1h30. C'est pas lui. Donc l'accuser personnellement, c'est une erreur.
C'est pas ce que j'ai fait.
Oui, non, je parle pas de vous. Je parle pas du tout de vous. Je parle de la musique qu'il y a eu, notamment sur Manuel Valls, qu'on a pu voir se développer quand il y a eu ça, et sur ce ministre de la Justice, pour qu'il en vienne à démissionner d'une faute qui n'est pas la sienne. C'est bien que c'est absurde. Ce monsieur, manifestement, est compétent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on démontre qu'il a lui-même fait une erreur, et que manifestement, ce qui a engendré cette situation, c'est une concaténation de plein de petites défaillances qui sont dues à des complexités administratives, qui sont dues peut-être aux services de renseignement, qui sont dues peut-être à des obstacles juridiques, mais ce n'est pas la faute d'un seul individu.
Mais le mot absurde ne convient pas du tout. Quand vous êtes responsable soit d'une administration, soit d'une institution, soit d'une autorité, et que vous avez des chaînons défaillants et que ces défaillances ont conduit à des drames, vous considérez que vous êtes responsable jusqu'au bout. Vous ne rejetez pas la faute sur des subalternes. On ne peut pas parler d'absurdité.
Oui, mais là, un autre ministre aurait sans doute rien changé à la situation. Je veux dire, si ce n'est pas sa faute individuelle, c'est ce qu'il dit lui-même. En tout cas, au vu des informations qu'on a, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas sa faute personnelle, mais qu'il démissionne pour assumer les problèmes qui ont pu survenir dans son administration et être le fait de soit d'autres individus, soit même d'une sorte d'erreur collective.
Ça veut dire, à minima, je n'ai pas vu. Et je n'ai pas vu, c'est déjà une responsabilité.
Oui, mais est-ce que c'est pas démagogique d'attendre d'un ministre qu'il plonge son nez personnellement? On sait très bien qu'un ministre, son rôle n'est pas de plonger personnellement dans l'intimité de chaque dossier, sachant qu'il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de dossiers compliqués.
Il y a un contre-exemple récent, hein, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Quand on a découvert cette histoire de lettres abominables envoyées à des parents d'enfants à Versailles, qui se sont tués à cause du harcèlement scolaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené des enquêtes absolument partout. Il a demandé à tous les rectorats de faire eux-mêmes des enquêtes internes. Évidemment qu'il faut comprendre les dysfonctionnements, sinon vous n'arriverez jamais à les corriger.
Ah oui, mais sur ce point, on est d'accord. Comprendre les dysfonctionnements, oui.
Donc il s'en est mêlé, de très près.
Mais choisir un bouc émissaire. Là, j'ai l'impression quand même qu'on est plutôt de l'ordre de la volonté de chercher un bouc émissaire, de l'accuser.
Il faut un symbole,
un symbole. C'est pour ça que j'ai employé l'expression métaphorique qui n'est pas appropriée pour la situation, mais de faire tomber des têtes, ça veut dire vraiment, il faut un symbole qui tombe, comme si ça allait permettre de tourner la page, alors qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que les choses se passent.
Est-ce que la limite de l'exercice, Judith, dans ce cas-là, c'est pas de se dire, là, c'est un cas particulier, si par exemple en France, chaque fois qu'on voit qu'il y a eu une erreur dans une administration, le ministre démissionne, on va avoir beaucoup de remaniements?
C'est-à-dire qu'entre chaque fois et jamais, il y a peut-être un moyen terme.
Et justement, Nathan Dever, on parlait aussi tout à l'heure à l'inverse de ces ministres qui font beaucoup de communication en ce moment, de Gérald Darmanin qui assume, etc. On voit aussi deux manières de faire de la politique. On parlait tout à l'heure de deux manières de voir la réalité. Ceux qui se disent, comme Gérald Darmanin et Karim Benzema, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, j'ai dit une erreur, mais quelque part, je l'assume, parce que Gérald Darmanin n'est pas vraiment revenu sur ses propos, versus ceux qui se disent « tant pis, je préfère tomber, mais j'assume jusqu'au bout aussi, mais d'une façon totalement différente ».
Vous avez raison, c'est presque une différence culturelle. Il y a beaucoup dans, je crois que c'est en Angleterre qu'un ministre avait voulu démissionner, présenter sa démission en tout cas, qui avait été refusée, parce qu'il était arrivé en retard au Parlement de 10 minutes ou un quart d'heure, et qu'il s'était excusé presque en larmes pour cette situation. Et en effet, même dans la culture scandinave, il y a beaucoup de ministres qui peuvent démissionner pour des histoires franchement risibles, d'une note de frais d'un café à 2 $, qu'il a oublié de signaler à son administration, des choses de cette nature. Il me semble quand même que dans les deux cas, là, il faut éviter ces deux écueils à égalité. Ça veut dire, d'une part, la croyance selon laquelle reconnaître une faille quelconque, c'est un acte de faiblesse, et c'est un acte qui va nous faire tomber dans un vortex. Je pense que c'est une erreur, et je pense d'ailleurs que les politiques qui veulent comme ça s'accrocher à leur force jusqu'au bout, on a pu le voir d'une certaine mesure avec Manuel Valls, possiblement c'est ce qui risque d'arriver avec Gérald Darmanin, ça paye pas en plus stratégiquement, politiquement, mais l'écueil inverse consistant, si vous voulez, à attendre d'un ministre qu'il soit une sorte de robot, de cyborg, d'intelligence artificielle absolument infaillible, autant dans ce cas-là, décider de demander à ChatGPT d'être ministre à la place d'individus. Si nos politiques sont des êtres humains, c'est précisément parce qu'ils sont faillibles, c'est précisément parce qu'ils peuvent faire des erreurs, et à condition qu'ils les reconnaissent, ça ne doit pas remettre en cause leur carrière politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une période, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure peut-être aussi de l'accélération des médias, où le fait qu'un politique puisse avoir fait une micro-erreur, ça peut lui coûter sa carrière politique à vie. Alors que quand on regarde l'histoire de la Ve République, pas faire l'inventaire de toutes les tâches qui ont pu exister, même chez des anciens présidents avant qu'ils ne deviennent présidents, ça n'a pas non plus été une sorte de moment qui a engendré leur harakiri.
Merci beaucoup Nathan Dever, merci Juste Vindrobe d'avoir été mes invités dans SAS Dispute.
Merci
tout de suite,
vous.
C'est Soir Info avec Olivier de Kerenfleck.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.